Question d'aujourd'hui. Avec Mario Barr.
Bonjour, bienvenue à Question d'aujourd'hui. Très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Chez Mediapol, au printemps dernier, un livre est paru, « La vérité nous rendra libres, parole de femme dans la crise des abus ». C'est un livre qui est co-signé par Madame Anne Descours, Véronique Garnier et notre invitée d'aujourd'hui, Madame Caroline Demazure, qui est théologienne. Elle a été directrice du Centre de protection de l'enfance de l'Université grégorienne à Rome. Elle dirige aujourd'hui le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables créé par l'Université Saint-Paul à Ottawa. On l'a joint en Italie, où elle est donc allée. Elle a beaucoup de postes d'enseignement. Madame Demazure, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, ça va très bien. Et vous? L'Italie va bien, l'automne et tout. Bon, voilà.
Oui. L'automne à Rome est bien. Je dois dire que c'est la doctoresse Tanous qui a repris le poste de directrice du centre.
Ah, d'accord.
Je travaille encore avec le centre. Je l'ai fait pendant 3 ans. Mais maintenant, c'est elle qui a repris le poste.
C'est vous qui avez été à la base de la création. Ce qu'on vous a demandé, parce que vous avez une expertise sur justement cette crise des abus. Et bon, ce livre, en fait, regroupe 3 témoignages, j'oserais dire. Votre témoignage de théologienne, hein, on peut dire, vous avez vraiment travaillé au cœur de l'Église pendant toute votre vie. Et il y a également Véronique Garnier, si je ne m'abuse, qui, elle, a été victime d'abus, donc qui témoigne dans ce livre. La préface est également signée par Jean Guinadeau, donc qui est également un spécialiste des abus, donc de la crise des abus dans l'Église. D'abord, Madame Demazure, pourquoi prendre la parole, j'oserais dire, encore? Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ben là, on en parle beaucoup, on continue à en parler. Et au Québec, il y a des diocèses qui sont maintenant poursuivis. Il y a des craintes également que certains diocèses ne puissent continuer leurs activités. Ça commence à poindre. Bien sûr, on va voir comment ça va évoluer, est-ce qu'il va y avoir des ententes hors cours. Bon, bref. D'abord, pourquoi continuer à en parler comme ça? Ma question vous paraît peut-être un peu bizarre parce que vous le savez. Je vous pose la question.
Oui, parce que l'affaire n'est pas finie. Dans aucun pays, l'affaire est finie. Donc, je parle toujours d'un point de vue international. Hein. Donc, dans plusieurs continents, il faut encore commencer à traiter les cas. Ils vivent encore dans le déni. Mais pour les pays où on est plus loin évolué dans le traitement des abus, je dois quand même dire que moi, j'ai appris quelque chose des autochtones sur la notion du pardon. Parce que normalement, dans l'Église catholique, le pardon, c'est la fin d'un processus. Hein, éventuellement, on va à la confession, l'absolution, et c'est ça. Mais eux, ils ont dit, tous les 3, après la visite du pape et quand ils étaient à Rome, le pardon, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle. Ce n'est qu'un pas dans un processus. Et donc, même si on demande pardon, ce n'est pas fini. Et moi, ça m'a toujours dérangé que on disait, oui, tournons maintenant la page. Mais c'est pas parce qu'on a demandé pardon qu'on peut tourner la page. En plus, pour les victimes, c'est très actuel. Même si ça a été il y a 20 ans, 30 ans, les conséquences pour beaucoup d'entre elles durent toute une vie. Et donc, pour elles, c'est pas fini. Hein?
Oui, c'est ça. Donc, c'est la prise de conscience, en fait, chez plusieurs catholiques, je dirais, de la base, qui vont à la messe, qui participent aux activités de la paroisse, qui sont même impliqués dans certaines activités pour l'organisation, tout ça, qui est toujours... Les gens sentent toujours que les histoires reviennent, une nouvelle histoire. Bon, et là, la fatigue s'installe. J'oserais dire, on a bien hâte que ce soit terminé, mais vous l'avez dit, au niveau international, il y a des pays où ça n'a pas encore été dit. Il y a encore un déni. Est-ce que vous travaillez avec ces gens-là? Avant d'aller vers le livre, là, j'aimerais savoir si vous avez commencé à travailler avec ces gens-là ou si le Vatican vous a demandé de commencer à travailler avec eux ou toute autre institution qui s'occupe justement de ces cas.
Ben, le Vatican ne me l'a pas demandé. Mais il y a des personnes dans ces pays africains qui veulent faire quelque chose avec ça. Et ils savent que nous avons de l'expérience. Et même la semaine passée, il y a quelqu'un du Congo qui m'a téléphoné et a dit « Est-ce que vous voulez aider pour mettre quelque chose en place ? Il nous faut des centres de protection parce que chez nous, le thème n'est même pas encore discuté. » Mais donc, le fait est là.
Il y a un déni, donc, dans certains pays où on dit c'est les problèmes de l'Occident, c'est le problème d'une sécularisation qui a mené à une perte de la moralité, quoi. C'est un peu ça qui est servi comme argument, aussi, peut-être?
Oui, mais aussi les mêmes choses. La peur que le prêtre va perdre de son statut important. La peur que l'institution sera endommagée. Donc les mêmes dynamiques qu'on a vues en accident sont présents dans ces pays-là. Hein? Donc c'est pas seulement qu'ils pensent que c'est quelque chose de l'Occident. Peut-être ils disent ça pour s'en débarrasser, mais ils savent très bien que c'est un problème international, c'est un problème global. Ça ne se limite pas à une certaine culture. Peut-être la forme peut être différente. Hein. Mm-hmm. Par exemple, en Afrique, on voit très souvent qu'il s'agit d'un abus des adultes vulnérables, plutôt que des enfants. Il y a une deuxième question, c'est la question jusqu'à quand est-ce qu'on est enfant? Dans l'Occident, souvent on dit 18 ans, et même si les gens, si les pays africains ont signé avec le chartre des enfants, des droits des enfants, ils ne sont pas d'accord toujours que c'est 18 ans.
Donc ça peut être 15-16 ans. Donc
15, 16, même 14. Pour eux, c'est souvent la maturité physique, pour eux, coïncide avec la maturité psychologique et spirituelle, ce qui est bien sûr pas le cas.
D'accord. Madame de Mazur, vous signez donc votre chapitre concerne le cléricalisme comme tel, qui est vraiment, semble-t-il, le gros nœud du problème dans cette crise des abus. D'abord, j'aimerais que vous nous définissiez pour vous, et c'est une définition, je pense que c'est important de la redire, qu'est-ce que c'est que le cléricalisme?
Oui, j'ai pas la définition correcte devant moi, mais je vais l'expliquer dans mes propres mots. En effet, c'est qu'il y a dans l'Église deux groupes. Il y a ceux qui sont ordonnés et ceux qui ne sont pas ordonnés. Ceux qui sont ordonnés, ce sont les clercs, et c'est de là que vient le mot cléricalisme. Et eux, les clercs ont leur propre culture. La culture cléricale, c'est pas un problème, on a une culture des jeunes, etc. Cependant, le cléricalisme est une déviance de la culture cléricale.
Ah.
Et oui, le cléricalisme, là, on voit non pas seulement qu'il y a des leaders et ça, mais on voit qu'il y a deux groupes, mais il y a un groupe qui est plus important que l'autre. Et le groupe, ce sont ceux qui sont ordonnés. Et donc, ça leur met dans une situation de pouvoir. Et nous savons que l'abus sexuel, c'est toujours aussi un abus de pouvoir. Et quand on a ce pouvoir, ça, c'est une sorte de facilitateur d'abus. Et donc, ce groupe, ça a aussi un esprit de corporatisme. Ça veut dire qu'ils vont se défendre entre eux. Ils vont garder le silence entre eux. parce que les autres ne doivent pas savoir. Hein. Donc aussi les laïcs sont considérés comme moindres sur le plan théologique, sur le plan, disons, spirituel. Et donc c'est ça, le fait, le grand fait, c'est qu'ils ont les sacrements. C'est eux qui administrent les sacrements et ça leur donne un grand pouvoir, le sacrement de la confession, le sacrement de l'Eucharistie, tout ça, ça leur donne dans leurs mains un grand pouvoir. Parce qu'on sait, par exemple, des religieuses aux Indes, quand les prêtres sont fâchés pour une chose ou d'autre, ils refusent d'aller faire la messe chez les sœurs.
Ah oui, d'accord.
Oui, c'est un abus spirituel. Ça arrive. Donc, ces sacrements que seulement eux administrent leur donnent un très grand pouvoir.
Vous êtes toujours en émission Question d'aujourd'hui. Je me trouve en compagnie de Madame Carline de Mazure, qui est théologienne. Elle a été directrice du Centre de protection de l'enfance de l'Université Grégorienne à Rome. Elle a dirigé le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables depuis sa création il y a 3 ans par l'Université Saint-Paul à Ottawa. Maintenant, c'est une nouvelle personne. Madame de Mazure, dans ce livre « La vérité nous rendra libres » chez Mediapol, « Paroles de femmes dans la crise des abus », il y a le témoignage d'une femme qui a été abusée sexuellement par un prêtre et qui a quand même continué à vivre en église ou à travailler dans l'église. D'abord, je vais passer sur son témoignage un peu, mais j'aimerais vous entendre parce que vous avez entendu beaucoup de témoignages de personnes abusées. Quand on continue dans une église, il y a une question de foi, hein? C'est assez extraordinaire parce que beaucoup de gens vont dire « ben non, on sort de là ». Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne reste? Est-ce que c'est... Il y a des gens qui vont vous dire, mais mon Dieu, on aime ça se faire taper sur la tête. Mais non, c'est autre chose, non?
Non, c'est la foi.
Et donc, c'est la foi.
Oui, et donc c'est Véronique et je la connais très bien. C'est une amie. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais elle écrit toujours l'église avec une petite lettre. Elle ne veut plus... Oui, l'église n'est pas parfaite. Elle n'est pas plus que nous. Alors pourquoi écrire avec un majuscule,
hein? Et donc je n'avais pas remarqué, Madame de Mazure.
Oui, oui, mais c'est parce que quand j'avais lu les épreuves, je l'avais indiqué. Et elle dit non, elle veut pas, elle veut pas. Donc c'est une personne avec une spiritualité fantastique. C'est incroyable. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont une spiritualité qui est aussi profonde. Elle a beaucoup de problèmes avec certaines formes de théologie et avec les clercs, disons, en général. Pourtant, elle a été la déléguée de l'évêque d'Orléans. Mais ça n'a pas marché comme c'est une position difficile et elle était souvent déçue de ce que l'évêque ne faisait pas et, selon elle, devrait faire. Mais j'ai beaucoup appris d'elle aussi sur le plan de la spiritualité et pour voir aussi quels points dans la spiritualité peuvent être un problème ou former un problème pour une victime. On reste parce qu'on a la foi dans l'Évangile.
Oui, on a la foi dans l'Évangile et elle parle également des tout-petits. Hein, ça, c'est, je trouve ça intéressant parce qu'elle revient sur cette fameuse phrase où Jésus dit « bon, ben, ce sont les tout-petits à qui mon père va le donner, va faire apprendre ces choses-là. » Là, je paraphrase parce que je ne retrouve pas la partie. Mais bref, c'est vraiment, elle redit à quel point c'est important de prendre soin des tout-petits pour une église qui porte un évangile où justement Jésus nous rappelle constamment que ce sont les tout-petits qui sont au cœur du royaume et qui vont pouvoir le bâtir parce qu'ils sont capables de le faire, étant donné qu'ils sont ouverts à ce partage, etc. Donc, il y a quelque chose là qui est très intéressant, mais qui doit, bien sûr, avoir un certain clash quand on arrive à Rome.
Oui, à Rome, oui, et ailleurs aussi. Pour elle, c'est l'hypocrisie qui la gêne. C'est la différence entre ce que l'Évangile dit et ce que les prêtres prêchent, et leur façon de vivre et de traiter les personnes. Et ça, pour elle, c'est très difficile. Mais aussi sur le point, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé aussi quand je parle avec elle, c'est sur le sacrement de la confession. Elle dit pourquoi est-ce qu'on ne soigne que ceux qui ont fait du mal. Mm-hmm. Et un jour, elle est allée se confesser, elle l'a raconté, et elle dit, moi, je veux me confesser sur le mal subi. Pourquoi vous déliez le mal commis et pourquoi vous ne déliez pas le mal subi? Et moi, je suppose que le prêtre était dans tous les états d'avoir une personne comme ça. Mais en effet, c'est vrai, nous n'avons pas de sacrement pour les victimes, pour les personnes qui ont subi le mal. Donc, je sais que dans ce diocèse-là, l'évêque a fait un rite un peu basé aussi sur le sacrement des malades, parce que elle pose aussi la question, pourquoi un sacrement pour les malades physiques? Et nous qui avons des blessures psychologiques, pourquoi est-ce qu'on n'élabore pas ça? Donc, elle pose aussi des bonnes questions à la théologie. Et on a un groupe en Paris, j'en fais partie, elle aussi, entre victimes et théologiens, pour voir les questions que les victimes posent aux théologiens et pour voir où est-ce que nous devons, corriger, améliorer notre théologie.
Au niveau de la théologie, justement, et c'est votre domaine, vous parlez du cléricalisme, donc c'est votre chapitre. Le cléricalisme, comment est-ce qu'on va arriver à, j'allais dire, à le soigner, l'éradiquer, l'effacer? Est-ce qu'il y a une recette miracle, Madame de Mazur, ou bien s'il faudra vraiment que, dans les structures même de l'Église catholique, il y ait des changements profonds et durables pour que, justement, ce comportement-là qui a créé la crise, qui a créé cette espèce de frontière également entre les laïcs et les clercs, vous avez dû réfléchir là-dessus en tant que théologienne.
Heureusement, oui. Est-ce que commençons avec la formation des prêtres, oui. Parce que tout commence là. Tout commence là. Et donc vraiment, nous devons nous poser la question de façon radicale. Ne pas faire on a trouvé la solution. Il y a une femme qui va venir enseigner la psychologie, qui n'a pas de droit dans la délibération sur l'ordination, bien sûr. Et donc ça, toutes ces choses, on ne va pas résoudre ou une seule formation sur les abus. C'est pas assez. Nous devons réfléchir sur notre tradition parce que nous avons une bonne tradition sur ce que c'est un prêtre. Mais de temps à autre, ça a dévié ou de temps à autre, les nouvelles insights, points de vue, perspectives n'ont pas trouvé leur place dans la formation. Et donc, c'est très, très important en effet que nous travaillons ensemble. Donc, ce clivage entre laïc et clerc, ça doit se terminer, ça doit prendre fin et nous devons travailler ensemble pour voir comment on va former les prêtres, les évêques et aussi les laïcs. Mais ça doit être une collaboration et ne pas être un clivage et surtout pas qu'un des deux groupes se trouve dans un état, sur un piédestal.
Oui, voilà, parce que on s'aperçoit également que une certaine culture du secret a vraiment permis à la crise des abus de prendre une ampleur qu'on connaît maintenant. Et vous mentionnez un document qui est sorti, je crois, en 1922. Je vais vous laisser le nommer parce que mon latin n'est pas très bon. Donc, c'est un document qui avait été établi donc pour justement apporter certaines, j'allais dire, c'est vraiment un document presque judiciaire jusqu'à un certain point pour l'Église. Voilà.
Donc c'est Crimen Solicitationes et ça a été réédité en 1962. Donc par celui qui était après, le pape Benoît XVI, Ratzinger. Donc. Et en effet, ça traite surtout de quand on commet l'abus dans le contexte de la confession. Ça, c'est une sollicitation. Et sollicitation. Et c'est large, c'est devant, juste avant la confession, dans, au cours de la confession, mais aussi après. Et donc, il y a en effet toute une procédure à suivre. Mais là, tout en bas, il y a que, il y a trois crimes qui sont aussi graves. Et là, l'abus sexuel des enfants fait partie. Et là, on dit, il faut suivre la même procédure. Mais le titre est, ce document va être gardé dans le plus grand secret. Vous ne pouvez pas en discuter, pas commenter et pas avoir des commentaires ou des améliorations. Donc, bon, une loi qui n'est pas connue, ben, une loi, ça ne va pas fonctionner, cette loi. Et donc, les évêques, mais je me rappelle aussi, hein, l'évêque de Gand me disait aussi, tu sais quoi, maintenant on a reçu une lettre, il paraît qu'il y avait un document et nous ne savions pas, parce que là où on normalement publie tel document, ça n'a pas été publié là-bas. Et donc, beaucoup de personnes n'ont jamais su, d'autres évêques ont connu, mais ne l'ont pas suivi. Et ça a été toute une confusion parce que puis il y avait Vatican II, il y avait le nouveau droit canonique. Bon, il y en a qui ont suivi ça et là on fait un accompagnement plutôt pastoral mais n'ont pas suivi ce texte. Pour beaucoup d'évêques, ça a été une révélation quand plus tard
SSC. Dans les années 80, hein, c'est ça?
Oui, oui, voilà. Non. 2001.
Ah, 2001, voilà.
Quand apparu, et là, il y a une partie historique qui dit, jusqu'à maintenant, c'était ce texte qui était valide. Donc, moi, je trouve, on a besoin de plus de recherches pour savoir si vraiment les évêques n'ont pas connu. Mais on voulait le distribuer à Vatican II, mais ça ne s'est pas fait. Et donc, ceux qui ont demandé au Vatican ont reçu le texte. Mais est-ce qu'il y avait, et il y a aussi des prêtres qui disent, oui, on a discuté le texte dans nos cours au séminaire. Donc là, c'est pas clair, est-ce qu'ils ont connu le texte. Mais nous savons hein, que le pape Benoît XVI a toujours dit, il y avait des règles. Et si on aurait suivi les règles, ça n'aurait pas été aussi grave que maintenant. De toute façon, les règles n'ont pas été suivies. Est-ce qu'elles n'étaient pas connues ou est-ce qu'on n'a pas voulu les suivre? Ça, c'est pas encore clair.
Il nous reste à peine 3 minutes, Madame de Mazur, mais est-ce que vous avez, la question est drôle, mais une recette miracle pour ce fameux cléricalisme qui a justement été l'un des moteurs principaux de cette crise des abus. Cléricalisme, dans le fond, qui a fait partie de la culture du secret, qui a été cette force sur les laïcs, sur les gens, presque une force un peu oppressive à certains moments, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que vous l'avez dit, dans certains pays, ce n'est pas réglé du tout. Il y a même un déni incroyable.
Donc, comme j'ai dit, la formation des prêtres est quand même importante. Hein? Mais c'est en effet toute une culture. Et le pape l'appelle une culture de mort. C'est le cléricalisme et l'abus, pour lui, ça va ensemble. Mais changer toute une culture, c'est très difficile. Surtout qu'une partie des laïcs est aussi, je ne vais pas dire indoctrinée, mais est formée dans ce cléricalisme. Ah, et oui. Regarde le prêtre avec comme quelqu'un de sacré. Et donc, cette culture doit être changée sur plusieurs niveaux. Mais le plus important pour l'instant, c'est, par exemple, moi je pense que le chemin synodal peut aider. Si les laïcs, les textes des laïcs sont acceptés, parce que j'ai entendu qu'en Allemagne, parce que j'étais là pour une conférence, qu'ils ont dit que les évêques n'ont pas accepté les textes que les laïcs avaient fait sur la sexualité. Et donc, en effet, si on va au synode, avec les textes des évêques et non pas que cette collaboration se termine sur ce niveau de discussion dans les diocèses, il n'y a rien qui va changer. Mais l'idée comme telle serait vraiment une bonne idée pour aider à mettre fin au cléricalisme parce que là, ce clivage n'est pas là. Les laïcs peuvent aussi dire, et là, beaucoup de laïcs sont très bien formés hein, maintenant.
Oui, donc, oui, effectivement.
Aussi sur le niveau de théologie. Donc, ça serait bien si vraiment il y a une collaboration, mais qu'on ne donne pas dans les mains de clercs le droit de veto. Parce que là, on n'arrive pas à une vraie collaboration.
Ben écoutez, Madame de Mazur, ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. On a fait un tour très rapide, mais moi, je vais inviter les gens, bien sûr, à se procurer « La vérité nous rendra libres, paroles de femmes dans la crise des abus ». Trois auteurs, notre invitée d'aujourd'hui, Madame Caroline de Mazur, Anne Descours et Véronique Garnier, chez Mediapol. Je pense qu'en tout cas, ça vaut la peine. Et la préface est de Jean-Guy de Nadeau, une préface qui est toujours aussi forte, Jean-Guy étant un homme avec une parole très forte. Merci beaucoup, Madame de Mazur. Ça a été un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui à la question d'aujourd'hui. Merci.
Merci aussi à vous. Bonne soirée.
Merci. Alors, simplement vous rappeler que question d'aujourd'hui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio M et Radio Galilée. Merci beaucoup à Yannick Caron et Daniel Fortin pour la technique. L'Office reçoit le gracieux soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation d'émissions. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.